Et au menu de notre club cet après-midi, la journée mondiale du vitiligo. Ce sera dimanche, du biomimétisme et une épopée des particules cosmiques. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, les dangers des antidouleurs pour les femmes enceintes.
Oui, le faisceau de preuves se resserre autour de l'usage de cette antidouleur pendant la grossesse. On fait le point sur les derniers résultats chez la souris avec le biologiste Bernard Gégou.
C'est Stéphanie Texier qui réalise aujourd'hui ce club préparé par Chantal Le Montagnier avec Benoît Tonson.
La tête au carré. Le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue une partie des invités du club, la journaliste Isabelle Franck, le biologiste Gilles Boeuf et le physicien Antoine Letessier-Selvon. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue Isabelle Franck. Le magazine La Vie publie un hors-série sur les inspirations issues de la nature. C'est un immense champ de découvertes là que vous avez exploré, hein.
C'est le moins qu'on puisse dire et j'avoue que ça a été absolument passionnant pour nous de plonger dans cet univers qui n'est pas très connu en France. Mmh. Nous avons exploré des concepts finalement assez émergents, un petit peu connus par les milieux plus scientifiques, mais vraiment dans le grand public, quand on en parle, personne n'y connaît rien. Alors on espère qu'on va aider à s'y retrouver.
Voilà, 80 pages qui sortent ces jours-ci. Gilles Boeuf, le biomimétisme justement. Bah, c'est une bonne raison pour protéger la biodiversité qui nous entoure. Hein.
Évidemment, comme disait un jour un pharmacien, je plains les prochains qui devront mettre des médicaments au point à partir de plantes disparues il y a 40 ans. Hein. Tout est là-dessus. Le mimétisme, en fait, faut bien voir que c'est pas une nouvelle science, c'est pas une nouvelle discipline. C'est quelque chose de très pluraliste, de très transversal, qui regroupe nos connaissances avec un but, améliorer la condition de l'humain dans le futur et vraiment faire de l'innovation avec trois points clés. Ne pas produire de produits dangereux. Être économe en énergie et créer des emplois.
On va en parler avec vous dans un instant. Antoine Letessier-Selvon, vous publiez de votre côté Cosmos avec un K, l'épopée des particules au CNRS édition. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir dans ce domaine de la physique fondamentale ?
Oui, énormément. Je pense qu'on n'imagine même pas tout ce qu'il y a à découvrir. Ouais. Mais on sait au moins qu'il y a des choses à découvrir. C'est ça, la beauté de la chose.
Donc là, il y a un beau champ également toujours à explorer avec évidemment de nouvelles façons de voir l'univers. Hein.
Absolument.
On va vous retrouver dans un instant. Puis on sera également avec le professeur en dermatologie Khaled Ezzedine et l'auteur Émilie François à l'occasion de la journée mondiale du vitiligo qui va se dérouler dimanche. J'attends vos messages et vos questions. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Faut-il craindre les antidouleurs chez la femme enceinte ? Question posée donc à la une aujourd'hui, alors qu'une nouvelle étude chez la souris publiée hier s'ajoute à celle déjà publiée pour dire que la prise de paracétamol pendant la grossesse modifie le développement du fœtus mâle en agissant comme perturbateur endocrinien sur la testostérone. On en parlait justement hier des perturbateurs. Bernard Gégou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes co-auteur de ces travaux, directeur de recherche à l'INSERM, directeur également de l'IRSET à Rennes, des données sur la souris donc qui s'ajoutent à des preuves in vitro sur des cellules humaines. On n'est plus du tout sur le terrain du soupçon aujourd'hui concernant les effets du paracétamol sur la grossesse.
Alors, quand on parle de perturbateurs endocriniens, la question c'est de réussir à réconcilier les rares données chez l'homme et les nombreuses données chez l'animal. Dans le cas des antalgiques, paracétamol, aspirine, ibuprofène, il faut bien dire que le faisceau de preuves s'accumule et surtout articule l'observation des populations humaines, les études chez l'animal, ici en l'occurrence chez la souris, et puis les études de culture d'organes, de cellules, etc.
Alors, qu'arrive-t-il à ces sourisseaux mâles quand vous avez donné du paracétamol à leur mère pendant la gestation ?
Alors, des travaux antérieurs auxquels nous avons participé, et d'autres équipes aussi, ont montré que le paracétamol avait la capacité à diminuer la production de testostérone pendant la vie fœtale. Or, la testostérone, elle agit sur tous les organes du corps. Et ce qu'on vient de montrer ici avec nos amis danois, dirigés par David Christensen, c'est que le comportement mâle de la souris qui a été exposée pendant la gestation au paracétamol est perturbé.
Alors, j'ai envie de vous poser cette question tout de suite. Vous avez étudié que les mâles ou vous avez trouvé des résultats seulement sur les mâles ?
Alors, le mâle a fait l'objet de la majorité de l'attention jusqu'ici. Mmh. En réalité, il y a des études, nous avons publié déjà un certain nombre d'études chez la femelle, dont on parle moins parce qu'elles se cantonnent pour le moment aux études chez l'animal et n'ont pas encore eu d'extension sur des études épidémiologiques chez les humains. mais il y a des effets négatifs aussi chez la femelle.
Alors, l'Agence nationale de la sécurité du médicament a financé en partie ces travaux. Quelle a été la réaction des experts quand vous leur avez présenté les résultats ?
Alors, vous faites bien de dire, c'est l'ANSM qui soutient nos travaux depuis longtemps. On est en liaison extrêmement étroite avec eux. Ils suivent avec beaucoup d'attention, non seulement en France, mais au niveau européen, puisqu'il y a eu une réunion à Londres. Il y a eu plusieurs réunions à Londres récemment autour de ces résultats. Toute la question pour l'Agence du médicament, le premier enjeu déjà, c'est que les recommandations qu'elle émet doivent être scrupuleusement suivies par les femmes enceintes ou par la population en général d'ailleurs, à savoir prendre ces médicaments quand on souffre ou quand on a de la fièvre, les prendre aux doses les plus faibles pendant les périodes les plus courtes. Maintenant, c'est vrai que l'accumulation des résultats de la recherche va vite. Il faut intégrer ça après dans le logiciel des agences du médicament européennes et quelles décisions seront prises à la suite de cette nouvelle étude, eh bien, on le saura bientôt puisqu'ils se sont réunis pour en discuter.
Bernard Gégout, est-ce qu'il faut maintenir ces médicaments en vente libre aujourd'hui ?
Alors c'est tout l'enjeu en fait. Moi j'ai du paracétamol dans mon sac qui est juste à côté de moi et je pense que je suis pas le seul, ou du ibuprofène quelquefois, ou de l'aspirine bien entendu. Mais c'est vrai que c'est des médicaments qui sont délivrés sans ordonnance. C'est vrai qu'ils font partie de notre mode de vie aujourd'hui. Les quantités ingérées par la population française en général sont extrêmement fortes. Et d'ailleurs, on n'imagine même plus dans certaines circonstances, en prenant un peu de paracétamol, qu'on prend un vrai médicament. Donc, toute la question maintenant, c'est à la fois des quantités ponctuelles, de la durée des prises et surtout des mélanges. Et chez les femmes enceintes, il faut surtout pas les mélanger. Et si la douleur se persiste, parce que la douleur en elle-même peut être nocive pour la maman ou pour le bébé à naître, mais en même temps, si elle se prolonge, il faut aller voir le médecin et surtout pas les mélanger, comme je disais tout à l'heure.
Alors, vous n'êtes pas médecin, mais on veut quand même vous poser la question à vous. Il faut préférer l'ibuprofène, le paracétamol, l'aspirine. Est-ce qu'on peut quand même donner des conseils ?
Oui, bien sûr. Le premier de tous les médicaments que nous avons testés, et ça, je parle bien d'études qui ont été faites sur des femmes enceintes, d'études qui ont été faites sur des organes humains en culture ou d'études qui ont été faites chez l'animal. L'ibuprofène, c'est la molécule qui, aux concentrations thérapeutiques, a le spectre de perturbations endocriniennes le plus large. Et là, franchement, je m'interroge un petit peu sur le fait que ce soit délivré sans ordonnance. La vigilance doit être, je dirais, dans la petite échelle de Richter, de la précaution la plus haute sur ce produit. Mais déjà, la réglementation prévoit de donner très fermement la consigne de ne pas prendre ce médicament à partir du 6e mois de la grossesse. En réalité, il faudrait probablement réglementer ça de façon plus serrée avant le 6e mois. Et je me répète, mais c'est tellement important comme message de santé publique. On ne prône pas, bien sûr, de faire un enfant dans la douleur, etc. Je l'ai déjà dit, ça peut être nocif pour l'enfant et pour la maman. Mais en même temps, il faut resserrer la réglementation très probablement et respecter pour le moment les recommandations d'un point de vue strict.
Gilles Boeuf, un mot du professeur d'endocrinologie quand même sur le sujet.
J'écoutais mon ami Bernard, c'est vrai que quand on sait en plus qu'on serait tous des filles normalement si petit chromosome Y ridicule ne nous amenait pas à produire des hormones mâles, donc si effectivement ces produits perturbent cette production et leur réceptivité, bien entendu que ça aura des effets importants chez les mâles, peut-être un peu chez les femelles aussi, mais les mâles sont vraiment dans le collimateur ici.
Une dernière question, Axel.
Oui, vous nous avez parlé des effets sur les souris, mais est-ce qu'on peut vraiment parler des risques pour l'homme ? Est-ce qu'on peut citer des risques qu'on prend quand on prend du paracétamol pendant la grossesse ?
Alors, ce que nous avons démontré, qui a été démontré par plusieurs autres équipes indépendantes, sur une cohorte, c'est-à-dire sur un groupe de femmes enceintes au Danemark, avec nos amis danois, c'est que la prise de paracétamol séparément, d'aspirine séparément, d'ibuprofène séparément, pendant 2 semaines ou plus pendant la grossesse, augmente le risque de non-descente des testicules, le multiplie par 2. Mais si les produits sont mélangés, on peut aller jusqu'à une multiplication du risque qui avoisine 20. Donc, ça, c'est le premier point. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les testicules ne descendent pas ? Eh bien, c'est la difficulté après à fabriquer des spermatozoïdes. Et voir plus tard d'autres problèmes qui se passent chez le jeune homme au niveau testiculaire, au niveau de la reproduction. Donc, Ça, c'est le premier signal, et c'est là que nous avons développé toute la panoplie possible et imaginable, et qui a conduit à la mise en évidence de ces effets sur les hormones testiculaires. Alors, autre chose qui a été observée, c'est la diminution de la distance anogénitale chez le petit garçon par d'autres équipes aujourd'hui, et l'augmentation de l'hypospadias, ce qui est le petit tuyau, l'urètre, là, qui se ferme mal au moment du développement du fœtus. Et donc, tout converge vers une augmentation du risque qui est lié à la perturbation des hormones testiculaires. Et je vous dis, pour des prises qui sont relativement longues, pour des concentrations relativement fortes et surtout en mélange. Donc, il faut faire attention.
Voilà, donc la question de ces antidouleurs pour la femme enceinte étudiée, là, on le comprenait chez la souris, mais avec déjà des messages sanitaires qu'on entend bien. Merci beaucoup, Bernard Gégout, pour vos explications. Et puis, Axel, on se retrouve lundi.
À lundi, bon week-end.
Et dans un instant, c'est le club.
Il pleut des cordes sur le balcon. Le vent s'engouffre dans la maison. Les volets claquent vers la mer. Le ciel est bleu pourtant. Tu regardes vers le nord. Avis de grand frère à la fenêtre. Mer 5 à 7, forcissant dans ta tête. Des crêtes d'écume au plafond. Un orage dans le salon, dans la salle de bain du bar, détends-toi. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'anticyclone des Açores est sur nous. La main de Dieu est sur nous. Les comètes géantes arrivent. Le canapé dérive. Dans les muséums d'histoire naturelle, les os des dinosaures tremblent. Les planètes s'entrechoquent. Et tu n'as encore rien vu. Et tu n'as encore rien vu. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tout le temps, de tout le temps, de tout le temps. L'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. Sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison. Les volets claquent vers la mer. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps.
Voilà, visiblement très inspiré par les derniers événements climatiques. Raphaël, avec l'année la plus chaude de tous les temps sur France Inter.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Dimanche se tiendra la journée mondiale du vitiligo. Le vitiligo, c'est cette dépigmentation de la peau qui affecterait 1% de la population mondiale. Plusieurs actualités concernant le vitiligo nous intéressent d'ailleurs cet après-midi à l'occasion de cette journée mondiale. D'abord la construction d'une cohorte de patients, la publication d'un petit livre pour enfants et puis des rencontres organisées donc dimanche partout en France. Émilie François, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur avec Thomas Dithivon de ce livre Blanc comme, c'est une histoire sur le vitiligo. Et puis professeur Khaled Ezzedine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue à l'hôpital Henri Mondor où vous réalisez des consultations dédiées aux troubles de la pigmentation et donc plus particulièrement au vitiligo. On va commencer avec vous justement pour faire un petit peu plus connaissance avec cette maladie. Vous êtes en train de monter donc une cohorte de patients atteints de vitiligo. Quelle est cette maladie exactement ?
Alors le vitiligo, c'est une maladie auto-immune dans laquelle les mélanocytes, qui sont les usines, en fait, les fabriques de pigments, disparaissent petit à petit parce qu'ils sont attaqués par des anticorps qu'on fabrique nous-mêmes. Et donc, la conséquence, c'est que la peau reste blanche au niveau de la zone qui est attaquée. Et une autre des particularités, c'est que souvent, ces zones de dépigmentation se situent au niveau des zones de frottement.
On connaît la cause de cette dépigmentation sur les personnes atteintes ou pas ?
Alors on connaît la cause, on commence à bien connaître la cause, puisque c'est ce que je vous disais, c'est une maladie auto-immune. C'est une maladie complexe, hein, multigénique, c'est-à-dire que probablement il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Il y a tout d'abord une base génétique, il faut avoir une base génétique pour développer la maladie, et puis là-dessus vont se greffer des événements de l'environnement qui peuvent déclencher la maladie ou l'aggraver.
Ouais. Quels seraient ces éléments ? Est-ce qu'ils ont été identifiés ou pas comme étant déclencheurs ?
Celui qui est le plus clairement identifié, c'est le stress. Le stress peut déclencher la maladie. Un gros stress, je ne parle pas du stress du quotidien au travail, mais la perte de quelqu'un qu'on aime beaucoup ou une grosse frayeur peuvent déclencher la maladie. Ouais.
Alors, c'est une maladie qui est considérée comme bénigne et pourtant qui a des retentissements psychologiques très forts chez les personnes qui ont du vitiligo.
Alors c'est une maladie qui est bénigne pour ceux qui n'ont pas de vitiligo. Ouais. Ceux qui ont du vitiligo ne trouvent pas du tout que ce soit une maladie bénigne. En tout cas ceux qui viennent nous voir à l'hôpital, c'est une maladie qui peut être dévastatrice au niveau psychologique, en particulier chez les adolescents où on sait que le risque suicidaire est vraiment augmenté. Donc il ne faut absolument pas négliger cette maladie, d'autant que comme maladie auto-immune, elle est associée à d'autres maladies auto-immunes. C'est un contexte.
1% de la population, c'est ce que je disais tout à l'heure, serait atteinte ?
1% de la population dans le monde est atteinte.
Ouais, c'est beaucoup.
C'est énorme. Ouais. C'est-à-dire que potentiellement, il y a 650 000 personnes en France qui ont du vitiligo.
C'est ça. Avec évidemment donc, aujourd'hui des recherches, on a le sentiment quand même qu'on est en train de vivre une période un petit peu particulière de vrais changements sur le front de la recherche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Alors, je suis absolument d'accord. Pour avoir vécu l'avant, je trouve qu'on est dans une période de transition, qu'au niveau, ça se voit sur les bases de données médicales, on voit bien que par exemple, il y a une base de données qui s'appelle PubMed. Quand on tape vitiligo, bien tous les jours, il y a une nouvelle publication qui apparaît sur le vitiligo. C'est probablement une des maladies pour lesquelles on a le plus de recherches en cours. Et probablement que dans l'avenir, on devrait avoir des traitements efficaces qui arrivent. En tout cas, on l'espère tous.
Ouais. Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui aux patients atteints de vitiligo alors ?
Alors, ça dépend du moment où les patients viennent nous voir dans leur vitiligo. Tous les traitements, de toute façon, devront passer par ce qu'on appelle la photothérapie, c'est-à-dire l'exposition à la lumière, qu'elle soit artificielle, par les UV ou naturelle.
C'est-à-dire le soleil ?
Le soleil, tout simplement, oui. Pas aux heures les plus chaudes, bien évidemment.
Ouais. Pourtant, Émilie François, on voit qu'il y a un personnage ennemi un peu dans ce livre pour enfants, qui est le soleil, précisément.
Qui est le soleil, mais Ulysse précise quand même qu'il faut prendre un peu le soleil tout en se protégeant avec une crème solaire.
Ouais. Alors, ces traitements, ils fonctionnent comment aujourd'hui pour une personne atteinte de vitiligo qui souhaiterait entamer ces démarches qui sont un petit peu lourdes hein, parfois, parce qu'il faut aller plusieurs fois par semaine faire justement des séances de puvathérapie. Les résultats sont au rendez-vous ou pas ?
Alors, les résultats sont au rendez-vous. On pense qu'à peu près, on a 60% de succès avec la photothérapie lorsqu'elle est bien conduite. C'est ça qui est important de la part des patients, mais également de la part des dermatologues, parce qu'il faut oser aller jusqu'à ce que l'on appelle la dose érythémateuse minimale, atteindre cette teinte rosée qu'on n'atteint souvent pas quand on fait la photothérapie chez les patients.
Khaled Ezzedine, alors cette cohorte de patients là, que vous êtes en train de monter, de quoi il s'agit exactement ?
Cette cohorte de vitiligo, elle va s'inscrire dans un projet plus large qui s'appelle COMPAR, qui est développé par le professeur Philippe Ravot, et qui consiste à suivre des patients avec des maladies chroniques. Et au sein de ces maladies chroniques, le vitiligo est une des maladies qui a été choisie. On a initié cette cohorte-là, on est en train de préparer les questionnaires. On peut s'inscrire dès maintenant pour participer à cette cohorte. L'idée, c'est de voir pas seulement la maladie du point de vue du médecin, mais également du point de vue de patient, justement de mesurer l'effet le fardeau du traitement, puisque c'est vrai que les traitements dans le vitiligo peuvent être lourds, il faut se déplacer 2 à 3 fois par semaine, c'est pas facile, et puis voir aussi qu'est-ce qui déclenche la maladie. Toutes ces questions-là, qui sont des questions pour l'instant qui ne sont pas résolues, devraient pouvoir être résolues grâce à une cohorte comme ça.
Alors sur combien de temps vous allez mener cette cohorte ?
Alors cette cohorte, c'est des patients qui seront suivis pendant 10 ans.
Ah oui, quand même.
Bah, le but, c'est ça, c'est de les suivre sur le temps, sauf qu'on vous prend qu'une demi-heure de votre temps tous les mois ou tous les 3 mois. Évidemment, ça peut sembler beaucoup, 10 ans, mais au fond, sur le point de vue de la recherche, c'est rien, 10 ans.
Et alors, pendant cette demi-heure mensuelle, qu'est-ce que vous allez demander à vos patients ?
L'idée, c'est de leur demander où ils en sont déjà. Donc, on prend de leurs nouvelles, on voit ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des événements intercurrents qui sont arrivés ? Comment ils vivent leur vitiligo ? S'ils ont eu des difficultés à trouver des lieux pour faire leur traitement ? Comment ils réagissent au traitement ? Beaucoup de choses sur la qualité de vie, sur le patient en tout cas. C'est très centré sur le patient.
Alors, les personnes qui nous écoutent, qui auraient évidemment du vitiligo et qui souhaiteraient s'engager à vos côtés pour collaborer à cette cohorte, comment on s'y prend exactement ?
Il suffit de taper sur Google « Compare vitiligo » et Philippe Ravo, à mon avis, on y arrive et il faut s'inscrire. Il y a un site pour s'inscrire. Je pourrais vous donner tout à l'heure, éventuellement, toutes les coordonnées pour s'inscrire.
Oui, et on les mettra évidemment sur la page de La Tête au Carré. Donc, Compare, c'est C-O-M-P-A-R-E, tout simplement. Compare Vitiligo, vous tapez les deux et vous allez trouver justement de quoi vous emmener jusqu'à la fiche d'inscription pour cette cohorte qui devrait démarrer quand alors ?
On espère d'ici le 15 juillet.
Ouais, il vous faut combien de personnes, idéalement ?
Le maximum.
Le maximum de personnes en France ?
Le maximum de personnes en France, pour commencer, mais Compare a aussi pour ambition de s'étendre à l'étranger. Probablement que des collaborations avec les États-Unis restent possibles. On adaptera, on fera des questionnaires en anglais pour les patients anglophones.
Voilà, donc pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent aussi peut-être des personnes atteintes de vitiligo, bah c'est l'occasion aussi de s'engager auprès des chercheurs pour participer à cette cohorte dont toutes les coordonnées sont sur le site de La Tête au Carré. Émilie François, vous êtes l'auteur donc avec Thomas Dithivant de ce petit livre pour enfant, toujours dans ce thème du vitiligo, s'appelle Blanc comme, et c'est une histoire sur le vitiligo. C'est l'histoire d'Ulysse, hein, justement. C'est un petit garçon qui rentre en CE1, je crois, qui a passé 4 ans à Singapour et qui va devoir arriver dans le milieu scolaire français. C'était important pour vous de vous adresser aux plus jeunes,
hein ? Oui, c'était très important. Le projet est né sous l'impulsion du professeur Julien Sénéchal, qui est dermatologue au CHU de Bordeaux et qui fait des consultations vitiligo pédiatriques et adultes, et qui s'est retrouvé confronté à des questions qui pouvaient quelquefois dérouter, ou voilà, le scientifique, le médecin n'a pas forcément toutes les bonnes réponses vulgarisées à la hauteur de l'enfant. Et comme on a déjà travaillé auparavant sur différents projets, voilà, il m'a demandé si j'avais une idée. Moi, étant éducatrice de jeunes enfants en hôpital pédiatrique, le média, le support livre a toujours été très important dans ma profession pour parler avec les enfants et pour pouvoir poser des mots sur la maladie, sur ce qui les affecte, sur les ressentis. Et voilà. Est né Blancom avec Ulysse.
Voilà, avec l'Association française pour le vitiligo, d'ailleurs, qui vous a beaucoup soutenu pour l'apparition de ce livre. Comment est vécue la maladie pour un enfant, justement, en primaire, en général ?
C'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de pointage du doigt.
Là, Ulysse fait l'objet de moqueries, hein,
oui,
très clairement.
Tout à fait. Il est
comparé à
un panda, un dalmatien. Et puis, c'est aussi quelque chose qui peut être vécu comme c'est une maladie sale, c'est une maladie qui peut s'attraper. Donc, il faut dédramatiser tout de suite ce genre de propos et pouvoir leur dire que non, c'est une maladie malheureusement qui est chronique, qui est comme les autres, mais on peut en parler, ça ne s'attrape pas. Et essayer de dédramatiser les choses au maximum. C'était aussi à la demande du professeur Sénéchal de pouvoir faire de ce livre vraiment un outil pédagogique avant tout.
Ouais. Alors, où est-ce qu'on peut se le procurer, justement, ce livre comme Blanc comme
hein, c'est son titre. Une histoire sur le vitiligo. Alors, on peut se le procurer dans les consultations pédiatriques au CHU de Bordeaux, dans les consultations pédiatriques au CHU de Créteil et également à l'Association française du vitiligo. Et puis, vous pouvez envoyer un mail à l'Association française du vitiligo. On vous fera parvenir avec grand plaisir.
Voilà, Association française du vitiligo, AFV. Là aussi, vous tapez sur Google. On pourra d'ailleurs aussi vous diriger pour la cohorte hein, parce qu'ils ont évidemment vos coordonnées, Raled Esdine. Alors, dimanche, c'est la journée mondiale du vitiligo. Ce sera l'occasion donc voilà de se réunir. Il y aura vraiment beaucoup de choses qui sont organisées justement à l'initiative de l'Association française pour le vitiligo dans 11 villes de France. France. Il y en aura peut-être plus hein, d'ici dimanche. Mais en tout cas, il y a Paris, Besançon, Arras, Nantes, Guingamp, Mulhouse, Rennes, Annecy, Cannes, La Rochelle et Bordeaux. Et il y a une marche d'ailleurs hein, qui va commencer à Paris. Ce sera Place Blanche, hein, dimanche à 15h. Elle porte bien son nom, cette Place Blanche, comme ses taches. Et avec une marche qui va mener justement les marcheurs jusqu'au Jardin des Tuileries. Hein. Donc ce sera ce dimanche, journée mondiale. Il y a de grandes figures, hein, professeur Esdine, aujourd'hui, qui revendiquent vraiment leur vitiligo, des personnalités très médiatiques. Ça fait beaucoup pour la cause, ça ?
Oui, probablement, parce qu'en fait, ça banalise la maladie, en un sens. Ceci dit, je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est vrai, c'est extraordinaire ce qui s'est passé avec ce mannequin, Winnie Harlow, qui a du vitiligo et qui est tout simplement resplendissante, pour banaliser la maladie. Après, je pense qu'il faut quand même garder l'oreille attentive à ceux qui ne le vivent pas comme ça. Tout le monde ne le vit pas de cette manière-là.
Voilà, Association française du vitiligo, donc pour tous les contacts, c'est en lien sur La Tête au Carré, l'occasion de cette journée mondiale après-demain, donc dimanche. Ce livre Blanc comme, et puis cette cohorte pour tous ceux qui souhaitent participer à la recherche à vos côtés, professeur Esdine. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui
Merci
dans La Tête
au
Carré. Et dans un instant, nous partons dans le monde de la nature que nous allons prendre pour modèle. On parlera de biomimétisme. Freak avec Rick James. À l'instant, dans notre club, Isabelle Franck et Gilles Boeuf, vous êtes avec nous à l'occasion de la publication de ce hors-série du magazine La Vie, qui a donc choisi de s'intéresser à la nature pour modèle. 80 pages d'exploration dans le monde donc de la bio-inspiration. Ça sort d'ailleurs avec France Inter, Isabelle Franck. Alors, le biomimétisme, c'est une révolution, c'est ce que vous dites, en tout cas, qui ne fait que commencer. Mais les hommes s'inspirent depuis très longtemps de la nature quand même.
Mais oui, depuis toujours, et on peut dire même que le premier biomiméticien très connu était Léonard de Vinci, puisque vous savez qu'avec les lentes, il s'était beaucoup inspiré de la nature, puisque en plus d'être un artiste génial, c'était un inventeur génial. Mmh. Et depuis, on a cessé de s'inspirer de la nature. Mais disons qu'il y a un courant qui renaît, si je peux dire, avec Janine Banyous, qui a vraiment théorisé, non pas une nouvelle science, mais vraiment une approche qui prend la nature pour modèle, en s'inspirant des prodiges de la nature et en les adaptant à nos besoins humains pour, bien sûr, accroître la recherche, les applications dans l'industrie, mais aussi dans un souci de protéger la biodiversité, de protéger le vivant et la planète. Mmh. Voilà. Et ça, en France, c'est pas encore très connu. Ça commence à émerger. Et nous avons, depuis 2 ans à Senlis, un centre, le Cébios, du biomimétisme, et on devrait d'ailleurs plutôt dire de la bio-inspiration, qui a ouvert. Donc ça commence à marcher. Et même, je peux vous dire, les 29 et 30, il y aura juin, il y aura à Senlis le deuxième salon du biomimétisme en lien avec le Cébios, qui a pour mission de faire connaître au grand public et de vraiment vulgariser. Et il y aura d'ailleurs Gilles Boeuf qui sera présent.
Parce que vous connaissez bien le Cébios, Gilles Boeuf, qu'est-ce qu'on y fait alors exactement là-bas?
Il était président pendant une année.
Ben oui.
En fait, on met des gens en fait du go-between, on met des gens en relation, des chercheurs fondamentaux, des organismes, des institutions, des entreprises. On a plus de 400 entreprises en ce moment qui y sont associées. Des très grands groupes, Saint-Gobain, L'Oréal par exemple, des petites PME. Et on essaie de dynamiser un système de réflexion. En fait, beaucoup de gens en font sans le savoir du biomimétisme. La question, c'est quand on se pose effectivement une question sur la mise au point d'un nouveau matériau, d'un nouveau type de modèle, d'une adaptation, d'une économie circulaire, ça touche à tous les niveaux. On va s'inspirer du vivant. Il y a même un programme de l'ENSAM. L'ENSAM, c'est pas forcément des poètes écolos, hein, qui en ce moment s'intéresse beaucoup à une banque de données qui a démarré aux États-Unis, qui est en disant à un entrepreneur, voilà, vous voulez mettre au point ceci, on vous cherche, quel est le meilleur modèle d'inspiration dans le vivant. Alors, je viens toujours au CX du fameux train japonais, là, et le meilleur CX trouvé au monde, c'était une tête et un bec de Martin Pêcheur.
Oui, pour le Shinkansen.
Voilà, et on a fait une double bio-inspiration, puisque ça marche très bien, mais ça faisait un bruit épouvantable, ce truc. Oui. Donc, on a associé le système d'accrochage des plumes d'un oiseau de nuit, le hibou, qui est extrêmement silencieux, parce que s'il fait du bruit, le hibou, il bouffe pas, de toute façon. Donc, puis, c'est ça, le biomimétisme. Ce qui est génial, c'est que c'est toujours avec une grande parcimonie d'énergie, très très peu d'énergie, sans faire de produits toxiques. Il y a toujours dans le vivant un acheteur pour le produit de dégradation qu'on a fait. Et ça, c'est vrai que c'est absolument génial. Ça marche bien, ça coûte moins cher, c'est moins polluant, c'est génial, donc il faut y aller.
Alors, dans le domaine des transports, il y a plein d'exemples, effectivement. En voici un autre, dans l'aviation, celui-ci, avec Denis Darac qu'on va entendre, qui est chef de la recherche physique du vol Airbus.
Depuis 2 ans, sur ces Airbus, les ailes ne sont plus plates, mais recourbées au bout. On appelle cela des charclettes, une réplique des plumes de rapace.
Ce dispositif, en fait, a été adopté après l'observation des aigles qui déploient des rémiges en extrémité de leur voilure pour améliorer leur performance aérodynamique. Si vous voulez, pour voler plus longtemps, avec moins d'énergie et avec plus d'efficacité. C'est ce dispositif qu'on a appliqué sur notre avion et il se trouve qu'il nous permet d'économiser 4% de carburant.
Imaginez maintenant la prochaine étape. Des avions qui voleraient en formation, comme des oiseaux migrateurs. Les premiers ouvriraient la voie et permettraient aux derniers d'être moins gourmands en kérosène.
Voilà, Gilles Boeuf. On pourrait effectivement s'inspirer des bancs de poissons.
C'est absolument génial.
Ouais. On gagne de l'énergie, justement.
Vous avez vu le film de Jacques Perrin, avec les pélicans au-dessus, les requins en dessous. Enfin, c'est difficile. Ou une baleine, c'est difficile, la vie de poisson. Le principe étant d'être au milieu du banc pour ne pas être bouffé à la périphérie.
C'est ça.
Et ils ne se touchent jamais. Ils sont des centaines de milliers.
Ça, c'est incroyable.
Magique.
Ouais. Absolument. Le biomimétisme. Alors, ce qui est très intéressant également, Isabelle Franck, c'est de voir que l'homme, non seulement s'inspire de la nature, et c'est évident, puisqu'on fait partie de la nature, on est aussi la nature.
Il y a un élément.
Et on essaye d'égaler aussi les animaux. Hein. Il y a un article sur nager comme un poisson, voler comme un oiseau, surfer comme un dauphin.
Est-ce ça, c'est les grands rêves de l'homme, hein, depuis toujours. Et c'est vrai que grâce à cette approche biomimétique, aujourd'hui, on arrive à mettre en place des matériaux pour des combinaisons extraordinaires, pour des appareils qui font voler. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que ça, c'est peut-être l'homme qui a envie de rivaliser avec l'animal. Mais il y a aussi tout un tas d'applications, notamment en médecine, qui sont absolument géniales. Parce que, par exemple, il y a des singes qui savent très bien se guérir eux-mêmes en ingérant certaines plantes quand ils ont certaines pathologies, etc.
Avec une pharmacopée des grands singes.
Exactement. Ouais. Donc, soyons un peu comme les singes, essayons
de trouver les
bonnes choses pour nous. Il y a des applications dans les transports, il y a des applications dans l'habitat. Enfin, il existe déjà aujourd'hui pas mal d'applications un peu partout dans le monde qu'on ne connaît pas forcément. Et nous, on a eu envie, ce numéro est fourmillant d'exemples.
C'est vrai.
Et je pense qu'il fait voyager, il fait rêver. Mais il faut bien savoir que beaucoup de choses sont déjà à l'œuvre.
C'est vrai.
C'est pas, le biomimétisme, là, n'est pas juste une espèce de bonne intention vertueuse, une mode. Là, nous, on est vraiment allé chercher des exemples de choses qui sont vraiment réalisées, et si possible en France, parce qu'il y en a.
L'agroécologie, par exemple. Ah oui, alors, ailleurs à l'étranger, l'Asie, très en pointe sur ces questions-là. Les villes vertes comme à Singapour,
à
où les arbres ont un rôle absolument prépondérant.
Tout à fait. Tout à fait. Et justement, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que parfois, et Gilles Boeuf l'explique bien dans le grand entretien qu'il a bien voulu m'accorder au tout début du numéro, que parfois, justement, dans des pays qui n'ont pas les moyens de se procurer...
C'est là qu'on trouve les meilleures idées.
Eh ben voilà, ouais. C'est là qu'on trouve les meilleures idées, comme cet arbre...
Et on ne s'empoisonne pas.
Comme ouais. cette fameuse plante dont vous me parliez, qui attire les parasites à côté des ouais. champs.
L'herbe et des... éléphant.
Voilà, ouais. Alors plutôt que des pesticides qui vont rendre malades à la fois ceux qui les répandent et ceux qui vont consommer les produits. Voilà, ouais.
Il y a l'exemple de cette jeune femme du Zimbabwe qui fait pousser des champignons sur les sacs de grains de café.
Ah, c'est magique. Alors, c'est le marc de café, plus exactement. Ouais. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, Günter Pauli, qui est un petit peu le pape de l'économie bleue et qui a recensé beaucoup d'expériences intéressante, non polluante, circulaire à travers le monde, s'est rendu compte que le marc de café, en fait, c'est une pollution énorme parce qu'en fait, on utilise 2% de la biomasse du café pour boire notre café et on rejette 98% dans la nature qui ne sert à rien, qui est brûlée. Et en fait, d'autres se sont rendus compte, et Günter Pauli l'a utilisé, que c'était un excellent engrais et que l'on pouvait faire pousser dessus du shiitake qui est un
champignon japonais
formidable,
très utilisé au
voilà
Japon,
et il se trouve ouais. que il a lancé un programme au Zimbabwe pour les orphelins du sida pour leur faire cultiver ce champignon. Et une petite fille de 7 ans qui s'est retrouvée orpheline devant s'occuper de son petit frère et de sa grand-mère presque aveugle a fait partie de cette association et a ensuite demandé à Günter Pauli de l'adopter. Et aujourd'hui, c'est une femme formidable dont vous découvrirez le portrait dans nos
absolument.
Pages.
Alors, c'est effectivement ce grand entretien, Gilles Boeuf, que vous avez accordé. Je prends le grand titre d'ailleurs qui ressort de cet entretien. Il faut suivre le modèle du vivant pour survivre.
Ça, c'est journalistique. Moi, je dis jamais survivre. Je dis pour mieux vivre. Ouais. À chaque fois, quels sont nos critères de progrès aujourd'hui? C'est beaucoup plus le bien-être que la finance ou la richesse. C'est pas que la durée de vie, non.
Mais il y a quand même cette idée-là.
Oui, oui. De toute façon, je prends un exemple.
Pour
un physicien qui est absolument magique, je prends une libellule. Elle est inventée par le vivant il y a 345 millions d'années. Ça marche. Elle a 9 techniques de vol. Elle a des capteurs de vol incroyables qui font rêver tous les avionneurs. Elle vole à pratiquement 100 km/h avec quelques watts. Elle voit à 360 degrés. À une centaine d'images par seconde, elle encaisse 30 g en accélération. Qui sait faire ça? Tous les pilotes d'hélico, mais ils en bavent tous. Alors je dis, écoutez, arrêtez d'assécher les mares et de me détruire mes libellules, allez regarder comment ça fonctionne. Ouais. Et ça intéresse les mathématiques. Les sciences de la nature sont fabuleuses en matière de mathématiques. Les théories du chaos, les assemblages géométriques, la physique, la chimie, la biologie, l'écologie et même les sciences humaines et sociales.
Mmh. Antoine Le Tessier-Selvan, on pourrait s'inspirer des particules cosmiques aussi, peut-être dans la nature, pour en faire quelque chose de vertueux pour la planète ou pas?
On s'en est déjà beaucoup inspiré. La nature est évidemment la source de toute notre connaissance. Donc c'est en l'étudiant qu'on apprend des choses nouvelles. Et les rayons cosmiques nous ont appris énormément de choses qu'on a utilisé pour certaines, pas de manière, disons, pacifique, malheureusement. Ouais. Mais oui, ça a beaucoup servi et ça sert encore.
Ça, c'est un aspect important pour répondre tout à l'heure à Isabelle, quand on disait c'est pas très connu en France. Sachons quand même qu'une bonne partie de ce qui a été caché, que ça a d'abord intéressé les militaires, la bio-inspiration.
Bien sûr, ouais, tout à fait. L'économie circulaire aussi, ça c'est un des projets très importants pour refonder aussi nos habitudes.
L'économie circulaire a pour modèle les écosystèmes, tout bêtement. Dans la nature, le déchet de l'un est toujours la matière énergétique de l'autre. C'est ce que Gilles expliquait tout à l'heure. Et donc, en fait, c'est une économie où on produit en envisageant dès le départ que les déchets pourront être recyclés et servir à autre chose.
Voilà, donc c'est un hors-série La Vie avec France Inter qui sort. La nature pour modèle, il est 3 mois en kiosque.
Il est 2 mois en kiosque. Et de façon pérenne, on peut le commander sur lavie.fr.
Voilà, biomimétisme, économie bleue, chimie douce, la nouvelle révolution écologique avec plein d'exemples et l'entretien de Gilles Boeuf. Donc Gilles, vous serez le 29 juin à Biomimétisme.
Oui.
Avec le Cibios, justement, ce sera sans Senlis, avec Jacques Tassin et Francis Allais, qui seront également sur place.
Il y aura également Jacques Rougerie, qui va nous parler de Six Orbiteurs.
Voilà. Et puis, l'homme peut-il accepter ses limites? Ça sort chez Coué, un livre que vous avez co-signé avec d'autres camarades à vous.
Avec des collègues médecins. C'est en fait une réflexion qu'on avait au Collège de France, il y a quelques années. J'ai 19 partenaires avec des gens prestigieux. Je ne cite pas tous, mais il y a Cyril Nick, il y a Hubert Rive, il y a Copin. C'est en fait une réflexion sur les interrelations entre l'humain et la nature. Après le livre qu'on avait produit en 92 qui s'appelait « L'homme peut-il s'adapter à lui-même ?»
Ouais.
Et c'est clair que notre message est aujourd'hui, il faut tuer l'arrogance et tuer la cupidité. Et moyennant cela, l'arrogance est essentiellement masculine, la cupidité elle est masculine et féminine. Je crois que si on arrive à faire ça, on a quand même des bonnes chances de nous adapter un petit peu mieux.
« L'homme peut-il accepter ses limites ?» aux éditions Quae. Et puis donc sort série La Vie en ce moment dans les kiosques. Dans un instant, nous parlons des particules cosmiques avec Antoine Le Tessier-Selvon.
It's a wonderful time for love. It's a wonderful time for love. The sun shines down from above. It's a wonderful time for love. And you think you have all you've dreamed of, with all the gray blue skies just ain't enough. When the sun goes down, can we sleep safe and sound? A wonderful time. Time for dealing a different game, the one where we don't have to place the blame. Such a beautiful time to rise and walk away from all the endless lies. I try to see the world through other eyes.
It's a wonderful time for love. Et c'est Norah Jones qui nous invite à l'instant sur France Inter.
La tête au carré. Le club.
Antoine Le Tessier-Selvon, vous êtes physicien des hautes énergies, c'est chic ça, hein, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies justement, et vous êtes l'auteur de Cosmos, l'épopée des particules, qui sort justement aux éditions du CNRS. Cosmos avec un K. Pourquoi ce cas alors? Ça renvoie à l'histoire justement?
Oui, ça renvoie à l'histoire et surtout ça renvoie à l'origine grecque du mot.
C'est ça,
qui est avant tout la beauté, l'organisation, l'ordre, pas seulement l'univers tel que c'est devenu le sens de ce mot aujourd'hui. C'est la même origine que cosmétique en fait.
Et vous vouliez revenir justement sur cette longue épopée puisque c'est le thème de ce livre au travers de ce cas.
Hein. Oui, absolument. Je voulais revenir sur l'histoire et sur tout ce qu'on peut extraire, toute cette science qui est contenue là dans la nature et qui attend qu'on la découvre, ouais. qu'on la scrute, qu'on la regarde et qu'on en apprenne tout ce qu'on peut en apprendre.
Absolument. Nous sommes baignés justement par toutes ces particules.
Oui, bien ouais. sûr.
Nous sommes ici là dans ce studio et elles sont là, elles nous traversent.
Et partout sur Terre, un peu moins au fond des océans et dans, ouais. Dans les mines les plus profondes.
Mais, pourquoi, pourquoi justement il y en a moins dans les océans, cher à Gilles Boeuf?
Eh bien parce que l'eau a cette capacité à ralentir les particules qui viennent du cosmos. Elles perdent un peu d'énergie pour chaque centimètre d'eau traversée jusqu'à s'arrêter totalement. Ouais. Et donc tout au fond des océans, il y a infiniment moins de rayons cosmiques est-ce qu'à la surface.
Ouais. Ça peut expliquer une certaine capacité du monde marin à mieux résister que le monde terrien ou pas?
Entre autres, oui. Je crois que Gilles est bien placé que moi pour le dire, mais la stabilité du monde marin est énorme et cette stabilité évidemment favorise la persévérance des espèces.
Ouais, la proportion est assez inouïe d'ailleurs hein, entre le marin et le terrestre. Ah,
hein. Complètement, on pense qu'une espèce marine aujourd'hui vit au moins 3 à 4 fois plus longtemps, pas l'espèce, l'individu, hein,
oui,
mais la population qu'une espèce continentale, à part ouais. des cas particuliers de bestioles qui sont préparées pour cela.
Ouais. Mais à l'inverse, on pourrait dire que cette trop grande stabilité nuit à l'évolution.
Il y a beaucoup moins d'espèces par exemple.
Oui. Antoine Letessier-Salvon, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à cette question des particules à haute énergie, alors, au point d'en faire une spécialité?
Ah, écoutez, c'est un peu le fruit du hasard, il faut le reconnaître. C'est parce que j'aimais les sciences, j'aimais découvrir, et que voilà, dans mon parcours de scientifique, il s'est trouvé que la physique fondamentale, la physique des hautes énergies, m'a énormément intéressé, et que surtout la structure du monde qui nous entoure, la structure vraiment au niveau le plus intime, qu'est-ce que c'est que l'espace, qu'est-ce que c'est que le temps, qu'est-ce que c'est que la matière, qu'est-ce que c'est que l'énergie, des questions qui restent tout à fait fondamentales. Même aujourd'hui.
Ouais, mais alors, c'est quoi exactement la physique des hautes énergies? Alors, qu'est-ce qu'on entend par haute énergie? Qu'est-ce qui se cache derrière?
Alors, évidemment, ça change tous les ans, ou en tout cas tous les 10 ans ou tous les 50 ans.
Les découvertes.
Les hautes énergies, c'était par exemple justement les premiers rayons cosmiques qu'on a découverts au début du 20e siècle et qui se comptent. Alors, on a une unité, on compte ça en électron-volts. C'est un peu compliqué à expliquer. Disons que c'est l'énergie qu'un électron atteint dans une différence de potentiel de 1 volt. Par exemple, un téléviseur, mais pas les téléviseurs à écran plat, oui. Les anciens téléviseurs avec les tubes cathodiques, il y avait quelques milliers d'électron-volts pour chaque électron. D'accord. Alors, au début du siècle, on a vu des particules avec 1 milliard d'électron-volts.
Déjà, ça y est, voilà. Oui.
Hein et puis, nous, aujourd'hui, on s'intéresse dans les accélérateurs à des particules qui ont à peu près 1 000 milliards. C'est comme ça, on est capable de les produire. Mais les rayons cosmiques eux-mêmes ont des milliards de milliards d'électron-volts. En fait, c'est un 1 suivi de 20 zéros, hein, 10 puissance 20 électron-volts. Ouais. Donc, ce sont des chiffres considérables. En tout cas, une énergie considérable pour une particule élémentaire. Ouais. Mais là, vous me faites prendre l'histoire par la toute fin.
Ouais. Hein,
parce que oui, c'est une découverte.
C'est les découvertes les plus récentes, au fond, qui nous indiquent l'intensité de ces énergies.
Les énergies sont effectivement tout à fait considérables et c'est à partir des années 40 en fait qu'on s'est aperçu qu'effectivement il y avait des rayons cosmiques d'une part, ça c'est au début du siècle dernier, mais qu'on a vu que le spectre en énergie, donc l'intensité non pas en nombre mais en énergie de ces rayonnements était ouais. considérable, donc 10 puissance 15 électron-volts à l'époque, et puis dans les années 60 on a vu des rayons cosmiques avec 10 puissance 20 électron-volts. Ouais.
Mais où est le berceau de ces hautes énergies dans l'univers et qu'est-ce qui engendre ces énergies absolument inouïes alors?
Alors c'est toute la question qu'on se pose et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a construit un immense observatoire dans la Pampa argentine qui s'appelle l'Observatoire Pierre Auger.
Oui, dont vous êtes un des membres fondateurs
oui,
d'ailleurs.
Absolument, en hommage à un physicien français, Pierre Auger, qui a été le premier à identifier que dans ce rayonnement cosmique qui bombarde la Terre en permanence, il y avait des particules de très très haute énergie. Oui. C'est lui qui a pour la première fois imaginé qu'il y avait des particules avec des millions de milliards d'électron-volts. Et puis, on a donc on s'est interrogé sur l'origine de ces particules. Le problème étant qu'elles sont extrêmement peu fréquentes. Hein, donc, par exemple, ces particules qui nous intéressent tellement avec l'Observatoire Pierre Auger, il en tombe une par siècle et par kilomètre carré.
C'est vrai?
Oui. Donc très peu.
Alors, mais comment vous faites alors pour les isoler, tomber dessus?
La question, c'est que si même en étant patient, si vous voulez en avoir plus d'une dizaine par an, il faut instrumenter de très grandes surface. Donc, on pose des instruments qui sont en fait disposés tous les kilomètres et demi sur l'observatoire Pierre-Auger, et on a posé des instruments, 1600 instruments, sur une surface de 3000 km².
Ouais.
Et ça, ça permet de collecter quelques rayons cosmiques de très hautes énergies chaque année.
Mais c'est pire que l'aiguille dans la boîte de foin, là, votre truc, quand même. Hein.
Un peu, mais, ouais. Mais voilà, on y arrive. Alors, il faut voir aussi que...
Quand vous en trouvez une, vous ouvrez le champagne à chaque fois, j'imagine. Non, parce que ça doit être une fête énorme en Argentine.
La première, ça a été une fête. Oui, une fois qu'on avait... Parce que c'est quand même une véritable aventure que de construire un observatoire qui fait pratiquement la taille de l'île de France.
Pour collecter une particule de temps
alors,
en temps.
Un peu plus, oui. Ouais. Une de temps en temps. Mais oui, c'est la beauté du geste aussi.
Ouais, absolument. C'est fondamental. Chercher, c'est absolument fondamental, choses, votre travail, bien sûr.
Très, très rare, mais...
Il y en a même fréquence partout.
Oui.
Ou qu'on soit sur la Terre.
Ou qu'on soit sur la Terre, en surface en tout cas.
Oui, pourquoi cette rareté justement de ces particules à haute énergie?
Mais parce que il faut les accélérer à cette énergie, et d'ailleurs le mécanisme qui permet cette accélération n'est pas totalement compris. À l'époque où on a construit l'observatoire, on se demandait si ces particules n'étaient pas issues de déformations du vide quantique, que par certains endroits le vide interstellaire serait dans une phase quantique pas exactement la même que le reste de l'univers. C'est ce qu'on appelle des défauts topologiques. Donc on imaginait que ce vide s'effondrait d'un seul coup et que des particules de très haute énergie en sortaient. On a aussi imaginé que c'était des reliques du Big Bang, des particules très très massives, ouais, qui seraient instables et qui se désintégreraient en particules plus standards de très très haute énergie. C'est ni l'un ni l'autre, apparemment. Mmh. Donc on a aussi cherché du côté des phénomènes astrophysiques ultraviolents, donc des trous noirs, ouais, des noyaux actifs de galaxies.
Non plus.
Probablement,
ah,
mais seulement probablement.
Ça fait beaucoup de points d'interrogation quand même tout ça. Hein,
oui, mais il y a beaucoup de points d'interrogation en physique fondamentale, et c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous motive. Et de toute façon, à chaque fois que vous barrez un point d'interrogation, en général, il en vient trois de plus.
C'est ça. Ouais. Est-ce que il y a un risque de danger avec ces particules à haute énergie pour nous autres petits terriens au milieu de l'univers?
Non. De fait, s'il y avait eu un danger, je pense que l'accident se serait déjà produit. Donc les choses restent très stables. D'ailleurs, à l'époque où on a mis en route les accélérateurs comme le LHC au CERN, qui sont des accélérateurs où sur la frontière franco-suisse, où on fait des collisions entre, par exemple, des protons à très très haute énergie, pas aussi énergétique que ces rayons cosmiques, mais malgré tout très très haute énergie, des gens se sont interrogés, mais est-ce qu'on va pas déstabiliser, mettre en feu l'atmosphère, etc. Si ça avait dû se produire, ça serait déjà produit avec les rayons cosmiques. Donc ça, c'était
mais
des réponses.
Les grandes extinctions de masse sur Terre, est-ce qu'elles ont pu avoir un lien avec ces gènes herbe cosmique?
Alors,
là,
c'est pas exclu qu'effectivement, si un événement astrophysique important, par exemple, ait lieu dans la galaxie, un effondrement avec une grosse quantité de neutrons émise, des neutrons qui viendraient donc pas trop loin, il faut qu'ils soient très énergétiques, les neutrons sont instables, ils se désintègrent, donc il faut pas qu'ils viennent de trop trop loin, mais bon, la galaxie, c'est encore possible, et les neutrons ont cette tendance à détruire le vivant de manière extrêmement efficace, d'où la bombe à neutrons d'ailleurs, et ça peut produire des extinctions de masse, et il n'est pas exclu que ce type d'événement ait eu lieu par le passé sur l'histoire des milliards d'années de la vie de notre galaxie.
Alors dans ce livre Cosmos, on y croise des grands noms de la physique, de Becquerel à Einstein, en passant par le couple Curie, évidemment. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à découvrir autour de ces particules cosmiques?
Autour de la physique fondamentale et de la physique de hautes énergies en général, il y a énormément à découvrir. Le point le plus important reste la connexion entre l'espace-temps, le tissu spatio-temporel, et la matière et la mécanique quantique.
Ouais.
Quelque chose qu'aujourd'hui...
Ce lien à faire...
Ce lien absolument fondamental...
Ouais.
Qu'on ne sait pas faire, sur lequel on travaille depuis des années, sur lequel Einstein a travaillé en fait tout de suite après la relativité générale et la découverte de la mécanique quantique, que je retrace un peu dans Cosmos. Et cette question de quelle est la nature profonde de la structure de l'espace-temps et le lien avec l'énergie et la matière et la physique quantique reste absolument entière.
Donc ça laisse du boulot à des générations de jeunes physiciens
qui sont invités
à poursuivre les travaux, mais vous avez encore du pain sur la planche vous-même, Antoine Le Tessier-Selvon. C'est donc ce récit dans lequel vous racontez aussi votre parcours personnel que vous mêlez à la grande histoire justement de ces particules. Cosmos avec un K au CNRS édition. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci.
Et puis toujours dans les kiosques, le hors-série de la vie consacré au biomimétisme. Merci à tous, bon week-end.